Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 22h51, vous êtes sur votre libre antenne en direct jusqu'à 1h du matin. Je vois Florian à travers qui attend vos appels au 3921. Donc n'hésitez pas, si vous avez, comme Dominique, envie d'évoquer votre vie, vous pouvez nous appeler au 3921. Nous sommes là pour vous écouter. Nous accueillons maintenant Sabine sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Sabine.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, bonsoir. Sabine ?
De Paris.
De Paris. Vous êtes parisienne ?
Oui.
D'origine ?
J'ai grandi en banlieue parisienne.
D'accord. Oui. Donc on peut dire que vous êtes quand même parisienne. Il y a pas.
Oui, tout à fait.
Dans
une banlieue qui a été rendue célèbre il y a peu par un film, Les Misérables.
D'accord, très bien. Oui. Alors dites-moi tout, Sabine.
Eh bien, je vous appelais pour vous partager mon expérience, d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait un article là. Dans l'idée qui disait que les gens avaient beaucoup consommé en fait pendant le confinement d'alcool et de drogue.
Oui.
Et donc je voulais partager moi mon expérience de ce qui m'a permis d'arrêter la drogue après pas mal d'années à en consommer en fait.
Combien d'années avez-vous consommé ?
Presque 30 ans.
D'accord. Vous consommiez quel type de drogue ?
Héroïne pendant 20 ans et alcool pendant 10 ans.
D'accord. Alors, racontez-moi ce parcours qui doit être aussi tumultueux, je suppose, mais qui, à votre voix, se finit bien, je l'entends. Donc, je vous écoute.
Oui, c'est clair. Oui, c'est pour ça que je veux partager mon expérience pour dire à tous les gens aujourd'hui qui sont dans la difficulté avec les produits, qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui n'arrivent pas à s'en passer, qu'il y a une solution en fait. Hein. Moi, c'est à travers les groupes de parole de Narcotiques Anonymes que j'ai fini par arrêter de consommer. Et pourtant, j'y croyais plus du tout depuis très longtemps. Hein. Donc,
c'est-à-dire qu'en fait, vous avez découvert les Narcotiques Anonymes à un moment. Au bout de combien de temps en fait de consommation, vous avez découvert,
La première fois que je les ai rencontrés, ça faisait moins d'une quinzaine d'années, mais j'étais encore jeune et ça n'avait pas marché à l'époque.
Oui.
J'avais beaucoup discuté, en fait. Aujourd'hui, ça fait 8 ans et 8 mois que je ne consomme plus aucun produit qui modifie le comportement ou mon état de conscience.
Bravo à vous.
Et donc,
bravo.
Je vis beaucoup plus heureuse. C'est sûr.
Je pense qu'il n'y a aucune commune mesure avec ce que vous vivez aujourd'hui. Lorsque ça vous arrive de penser à cette période durant laquelle vous consommiez, comment est-ce que vous la regardez, cette période, si parfois il vous arrive d'y penser? Alors peut-être pas, hein, mais en échangeant ces derniers temps d'ailleurs avec quelques personnes qui ont connu le même type de chemin que le vôtre.
Oui. La
tendance était à ne jamais plus penser à cette période. Et finalement, le fait d'en parler, elles se penchaient et elles avaient du mal à se souvenir tellement les personnes qu'elles étaient aujourd'hui ne ressemblaient tellement plus en rien à celles qu'elles étaient durant ces années de consommation.
Oui, mais je ne sais pas, parce que moi, ce qui m'a aidée justement dans ce programme et dans cette fraternité, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, hein, c'est justement de donner de l'aide à des femmes qui arrivent et qui ont eu le même genre d'expérience et qui ont moins de temps sans consommer et les accompagner justement dans ce travail qui fonctionne avec des étapes. C'est un programme qui a été calqué sur celui des Alcooliques Anonymes et c'est une progression spirituelle en fait. Donc au départ, je les accompagne là-dedans. Il y a une première étape pour reconnaître qu'on n'arrive plus à gérer en fait. Et quand je partage ça avec mes filleuls, forcément, je leur partage aussi, moi, mon expérience. Et ça me permet de pas l'oublier. Donc, à la fois, ça me permet de pas l'oublier, parce que si je l'oublie, je pourrais être tentée de reconsommer. Et à la fois, ça peut servir à quelqu'un pour s'en sortir. Et ça, c'est vraiment le cadeau, en fait. Et c'est ça, en fait, qui me permet aujourd'hui de vivre une vie différente et d'être quelqu'un d'épanoui. C'est d'utiliser toute cette période de gâchis, finalement, hein, parce que 30 ans, c'est un morceau de vie quand même,
oui.
Pour que ce soit utile à quelqu'un. Et notamment dans les structures où souvent les gens qui consomment finissent, quoi, c'est-à-dire les lieux fermés, les unités fermées, des hôpitaux ou les prisons. Mais donc, ce qui a fait partie aussi pour moi beaucoup de ce chemin spirituel, c'est de redonner dans ces endroits-là où j'ai passé beaucoup de temps fermé. C'est ça qui me permet de grandir et de ne pas oublier aussi, parce que, comme on dit des fois dans nos réunions, on a un peu des mémoires de poisson rouge, nous. Hein. Dès qu'on a un boulot, une famille, tout va bien, on est content. On se dit, bon, bah, c'est bon, je suis guérie. Et l'idée, c'est quand même d'éviter de retenter de consommer quelque chose, parce qu'en général, on ne sait pas s'arrêter.
Surtout ne jamais oublier que l'on reste à vie quelqu'un de fragile et qu'on a tout de même dans un petit coin de nous, hein, de notre tête, de notre ventre, cette maladie qui veille, qui est là et qui peut...
Complètement. Peut recharger. Moi, par exemple, quand j'ai arrêté la première fois la drogue, donc c'était le 4 février 2000, et j'ai passé un an dans un centre où il y avait des chevaux, donc ça m'a beaucoup aidée parce que j'aime beaucoup les chevaux. Et quand je suis sortie, j'ai vraiment cru que j'étais guérie. D'ailleurs, j'ai complètement changé de vie. Je suis restée dans le sud, je me suis installée là-bas, j'ai commencé une nouvelle vie là-bas. Et donc, petit à petit, je suis devenue alcoolique sans m'en rendre compte.
On va continuer à évoquer ce parcours et tout en restant justement sur ces différentes phases qui reviennent, hein, ces impressions d'être guéri et de vivre tout à coup quelque chose de formidable, ce qu'on appelle une période rose, et puis s'apercevoir qu'on reglisse tout doucement et que ça veut bien dire quelque chose. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants, Sabine, d'accord ?
Oui.
À tout de suite.
Oui.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 3 minutes, vous êtes sur votre radio Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous envoyer vos questions, vos commentaires au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un tiret. Nous sommes avec Sabine qui nous raconte ce soir son chemin dans cette fraternité. Un chemin d'abord... un chemin cabossé par des prises de drogue. Nous en étions, Sabine, justement, à évoquer cette période où vous étiez parti dans le sud. Vous aviez rencontré des chevaux, en fait, hein, tout le milieu du cheval, et que vous pensiez en être sorti, hein, de cette consommation. Et puis, vous évoquiez avoir glissé petit à petit dans l'alcoolisme. Alors, finalement, en fait... est-ce que vous avez l'impression à cette époque d'avoir quitté un produit pour glisser dans un autre ?
Eh oui, et ça c'est justement c'est l'histoire de ma vie. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de ne pas perdre ça de vue. Parce que justement à chaque fois que je rentre dans une nouvelle phase de ma vie ou dans un nouveau projet ou dans un nouveau métier, je peux croire que je vais gérer, que je suis guérie, que je peux avoir une vie normale. Et nous, c'est vrai que dans la fraternité, on dit que c'est une maladie, en fait, et que le problème, c'est que si je fais re-rentrer un produit qui me modifie, qui active mes circuits de la récompense, etc., n'importe lequel, en fait, je pourrais pas le gérer, parce que quel que soit ce produit-là, je vais finir par en abuser. Et ça s'est passé avec tout ce que j'ai consommé, tous les produits que j'ai consommés. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai fini donc, dans un centre de traitement suite à la dernière overdose que j'ai faite. Et là, quand ils m'ont fait marquer toutes les années de ma vie avec tous les produits que j'avais consommés, en fait, il y en avait très peu que je n'avais pas pris, à part en fait le PCP, tous les autres trucs que je les avais pris. Et c'est là aussi, en voyant tout ça étalé sur une feuille, que je me suis rendu compte à quel point j'avais consommé tout et n'importe quoi toute ma vie.
Ouais.
Et alors que je ne m'en rendais pas compte à ce point-là. Et c'est pour ça que j'ai besoin des autres pour me rendre compte de ma réalité. Parce que le fait que je sois dépendante, j'ai une vision de la réalité qui m'est propre et qui souvent n'est pas très juste, en fait. Et j'ai besoin de l'expérience des autres qui me partagent leur expérience, et notamment les anciens. On a des gens qui sont depuis très longtemps dans la fraternité et qui ont tout vécu sans consommer. Hein. Ils ont vécu des naissances, des divorces, des deuils. Et c'est en partageant avec eux que j'arrive à vivre tout ça de façon plus ou moins sereine, en fait. Mmh. Et surtout sans consommer.
Alors, il y a aussi, souvent, dans ce type de chemin, de destinée, même si toutes et tous, nous avons... chacun, bien évidemment, cette destinée et ses chemins, mais lorsque ces chemins sont tortueux, lorsque on rencontre facilement, finalement, ce type de consommation, il y a souvent une origine, quelque chose qui a provoqué cette facilité à aller vers les produits. Et je pense que lorsque on est dans la période que vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 8 ans et 8 mois d'abstinence, on est en capacité de plus s'expliquer, de comprendre ce qui nous a poussé à un moment ou un autre vers finalement une envie irrésistible d'affronter la réalité, mais pas clean en fait, hein, avoir besoin d'affronter cette réalité avec un produit qui booste, hein, qui désinhibe. Est-ce que vous avez pensé à cette origine? Je suppose que vous y avez travaillé.
Oui, absolument. D'ailleurs, dans le travail des étapes, il y a ça aussi. Et alors, c'est vrai que le pourquoi, pour moi, hein, je parle que de mon expérience, hein, je n'ai pas du tout d'opinion générale à ce sujet, mais pour moi, j'ai vu... Alors forcément, comme j'ai fait beaucoup de cures, etc., j'ai vu beaucoup de psys, tout ça, et on a souvent parlé du pourquoi. Et c'est vrai que souvent, je sortais de là et je disais, mais pauvre de toi, avec la vie que tu as eue, allez, va te prendre une petite récompense, parce que là, c'est pas possible, il faut que tu te consoles, etc. Et justement, la nouveauté, quand j'ai accepté de m'asseoir dans les salles de narcotiques anonymes et d'écouter ce qu'on me suggérait, bon, c'est vrai que j'avais plus trop les moyens cognitifs de faire autrement à ce moment-là, de toute façon. Là, c'est là que ça a changé ma vie, parce qu'on m'a pas dit, mais pourquoi t'as consommé? Oh, bah oui, quelle vie de malheur et d'horreur. On m'a juste dit, mais nous, on s'en fout de pourquoi t'as consommé. On va t'expliquer comment faire pour pas consommer. Et c'est là où il y a eu la différence, et c'est justement de rester assez longtemps sans consommer qui m'a permis d'aller voir pourquoi je consommais, quel comportement je mettais en place, quelle peur il y avait derrière, quels défauts de caractère j'actionnais justement quand ces peurs, elles se réveillaient, même si aujourd'hui je ne suis plus dans la même insécurité à tous les niveaux de ma vie. Et mais ça, pour pouvoir faire ça, il faut que je sois clean. Et le problème, c'est que moi, toute ma vie, j'ai essayé d'arrêter. Hein, parce que ma première cure, j'ai quand même faite en 89 et j'ai arrêté de consommer en 2011. Hein, donc, j'ai vraiment passé beaucoup d'années à faire beaucoup de tentatives pour arrêter, quel que soit le produit. Et finalement, le truc que j'avais jamais fait, c'était d'arrêter, quoi. Moi, je voulais absolument arrêter les produits, arrêter les conséquences. J'en pouvais plus. Ma vie, c'était un enfer, mais je voulais pas arrêter, en fait. Et donc, il a fallu déjà commencer par là pour que tout le reste se mette en place, et tout ça dans la bienveillance, hein, honnêtement. Moi, après des années de consommation, de drogue, de rue, de bagarre, quand je suis arrivée à Narcotique Anonyme et qu'ils m'ont dit « Bienvenue, reviens, ça marche », honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui me disaient « Reviens » quand ils me voyaient. C'était « Oh là là, encore elle, au secours », etc. Et en fait, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour dans ces salles et les gens ne se jugent pas parce qu'en fait, on a souvent les mêmes façons de fonctionner.
Ce qui fonctionne dans ces salles, et vraiment, lorsque vous... C'est une fraternité, vous avez raison de souligner que c'est une fraternité parce que ces groupes, elles portent cet esprit de fraternité Et finalement, pour toutes celles et ceux qui écoutent ce soir et qui luttent contre une addiction qu'elles pensent peut-être légère, pas importante, mais qui les empoisonne un peu finalement puisqu'ils y pensent à cette addiction. Je pense aussi aux autres qui nous écoutent aussi et qui vivent une addiction plus prononcée. C'est vrai que souvent, on a tenté d'arrêter par de multiples moyens. Et finalement, ce qui marche dans ces salles, c'est que lorsque vous arrivez dans ces salles, comme le dit si bien Sabine, c'est que vous pouvez voir une femme comme Sabine qui se battait dans la rue, qui pouvait paraître mauvais genre, ou en tout cas que vous pensiez jamais ne pouvoir... aborder ou échanger avec elle. Et finalement, dans ces salles, on trouve aussi bien des ouvriers, on trouve aussi bien des cadres, on trouve aussi bien des patrons même. On voit tous les milieux socioculturels. Et finalement, c'est ce qui accroche aussi beaucoup dans cette fraternité, je trouve. C'est de voir finalement qu'on a beau, être riche, on a beau être pauvre, on a beau... avoir telle vie ou une autre, finalement, on est là pour la même chose et qu'on se ressemble pour cette chose-là. Et c'est, je pense, l'un des premiers paramètres qui marche. Et puis ensuite, il y a aussi le paramètre de cette demande de rester abstinent complètement. C'est-à-dire cette demande de ne consommer absolument aucun produit. Hein. C'est-à-dire que si on fume du cannabis, on n'autorise pas, en fait, dans ces fraternités, à prendre un petit verre pour essayer de faire passer l'addiction au cannabis. Et parce que ça marche. Ça marche, en fait. Le fait de rester plusieurs jours sans consommer le moindre produit, hein, c'est quelque chose qui porte ses fruits.
C'est pas qu'on n'autorise pas, parce que nous, justement, on se juge pas. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis revenue des années après. C'est que les gens qu'on voit dans les salles et qui ont un peu de temps déjà sans consommer, en fait, ils ont de l'attrait. Et donc, on a envie de ce qu'ils ont. Moi, quand je suis revenue à Narcotique Anonyme, après cette OD, donc il m'avait enlevé pas mal de capacités. Hein. Je ne savais plus lire, je ne savais plus écrire, je ne savais plus compter. Enfin, j'ai eu quand même des conséquences. Ça a mis plusieurs mois à se remettre.
Vous auriez pu mourir.
Oui, je suis restée 3 jours dans le coma. Quand même. Et du coup, bah oui, on n'a plus la même résistance à 40 ans qu'à 20. Mmh. Mais quand j'ai vu ces gens-là et que j'ai entendu leur histoire et qu'ils souriaient, ils avaient l'air d'avoir la santé, ils avaient des dents, enfin, j'avais envie d'avoir ce qu'ils avaient, en fait. Et du coup, je suis revenue. Et je me suis dit, ce qu'ils ont, je le veux, donc je vais essayer de faire ce qu'ils me suggèrent. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont mises en barrière dans mon esprit. Déjà, dans les lectures, il y a beaucoup le mot « Dieu », comme c'est un programme qui a été créé dans les années 30 aux États-Unis. Bon, forcément, ça se refait sur le protestantisme et tout ça. Donc, moi, par exemple, ça m'a choquée. Pendant des années, je me suis envoyé des trucs dans les veines en pensant que j'allais trouver une nirvana, en sachant très bien que ce n'était pas le cas, sans problème. Par contre, quand j'ai entendu Dieu, j'ai eu l'envie de dire « Oh là là, ça m'a l'air dangereux, votre truc, je ne vais pas y toucher, au revoir. » Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je relativise par rapport à ce qui a pu me bloquer à ce moment-là, parce que c'est un chemin spirituel, ce n'est pas un chemin religieux. C'est vrai que l'idée de Dieu et de quelque chose qui est extérieur à moi et qui peut m'aider dans ma vie, extérieur et bienveillant surtout, ça peut aider. Parce que moi, quand je crois que je contrôle, en général, comme je dis souvent, moi, quand je commence à dire « je gère », il faut que j'appelle ma marraine, parce que c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Sinon, je n'ai pas besoin de dire « je gère ». Mmh. Donc, il y a eu ça qui aurait pu me repousser. Et puis, justement, on m'a dit « oui, prends une marraine ». Alors, moi, avec la vie que j'ai eue, les femmes, j'en connaissais pas, à part ma meilleure amie. Et donc, je ne savais pas leur parler. En plus, je ne les aimais pas. Moi, avec mon parcours, c'était un peu des rivales, tout ça. Donc, c'était compliqué. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que les deux plus beaux cadeaux du programme, c'est ça pour moi. C'est ce lien que j'ai aujourd'hui avec ma marraine, avec mes filleules, qui est quelque chose de très pur et où vraiment qu'on partage, on est vraiment nous-mêmes, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à consommer. J'étais enfant, donc je ne sais pas vraiment qui je suis. Que j'ai pas eu le temps de me construire, en fait. Mais petit à petit, la personne que je découvre, justement, en avançant dans cette fraternité, dans ce rétablissement, elle a de l'attrait, et du coup, j'arrive à me pardonner pas mal de trucs que j'ai pu me reprocher, et parce que j'ai aussi beaucoup consommé sur la culpabilité. Donc, c'est un programme de réparation.
C'est un programme de réparation. Oui.
Au départ, on constate qu'on n'a pas justement la main et qu'on ne peut pas se permettre de consommer. Après, on va voir quel comportement récurrent nous ramène toujours à la consommation. Et à partir de là, on peut essayer de mettre un peu plus de qualité dans la balance et pour finalement aller réparer les torts qu'on a causés.
Mais on parle,
envers soi-même.
Exactement, surtout envers soi-même. Et on parle de cette fraternité pour la consommation de produits stupéfiants ce soir et d'alcool. Mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait cette réflexion de se dire que cette fraternité, si tout le monde avait l'idée de participer à ce type de groupe, vous voyez, à ce type de fraternité, parce que Dieu sait si beaucoup de groupes de parole se sont créés en s'inspirant de cette fraternité des AA, surtout des alcooliques anonymes, et ensuite des narcotiques anonymes. Mais finalement, tout ce qui se produit dans ces réunions, tout ce dont vous parlez, d'identifier des problématiques bien propres à sa personnalité, cette culpabilité qu'on peut développer, ce manque de confiance, finalement, qui sont des choses qui se passent dans la vie de tout le monde, pratiquement. Et finalement, cette fraternité, si elle pouvait être plus, encore plus dans le futur, étalé et démultiplié en groupes spécifiques, eh bien, il faudrait que bon nombre d'entre nous y aient accès, parce que ça marche, et ça ne marche pas que pour la consommation de stupes. Ça peut marcher aussi pour des comportements, pour tout un tas de comportements déviants que l'on peut avoir dans la vie.
Et
on peut se soigner.
On s'en produit maintenant. Mm-hmm. Les jeunes, ils sont addicts aux jeux vidéo. On peut être addict au travail, au sexe, aux jeux.
Au shopping.
Oui, aussi. À parfumer la carte bleue. D'ailleurs, il y a des fraternités effectivement spécifiques.
Oui, c'est pour ça que j'en parlais. Accro
à la nourriture aussi. Nous, on arrête de consommer. Donc c'est quand même finalement relativement simple. Hein. Pour quelqu'un qui a des problèmes avec la nourriture, il ne peut pas arrêter de s'alimenter. Donc c'est plus compliqué. Donc, bien sûr, il y a des fraternités spécifiques en fonction des addictions. Et nous, c'est narcotique anonyme. Hein, donc, clairement, c'est des produits modifiants de comportement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a enlevé la drogue, on voit bien que notre problème, ce n'est pas la drogue.
Non.
C'est ça. Mais encore, faut-il l'enlever pour s'en rendre compte.
En tout cas, ce qui marche, c'est le groupe, chers amis. Ce soir, ce que vous entendez dans le récit de Sabine, ce qui marche, c'est le groupe. Et finalement, ce groupe, on peut le créer dans sa propre vie, pour peu que on soit plusieurs à avoir envie de partager des choses, à se faire confiance à soi-même, mais aussi bien aux autres, pour savoir qu'ils ne vont pas vous juger, et pouvoir régulièrement pouvoir se réunir et échanger, parler de soi, écouter l'autre, se raconter aussi. C'est un peu ce qu'on fait tous les soirs sur cette antenne, et finalement identifier tout un tas de choses qui nous ramènent à notre propre vie, notre propre conception de la vie, et se dire que nous ne sommes pas seuls à traverser telle ou telle chose, nous ne sommes pas seuls à souffrir. Et au final, l'idée de cette fraternité, lorsque je dis qu'elle pourrait s'externaliser et pouvoir profiter à tout un tas de monde, c'est que l'idée du groupe d'individus qui se qui se respecte et qui échange et qui sait ce que c'est que respecter l'autre et aimer l'autre, l'écouter, prendre ce qu'il y a de bon. Ça marche, ça. Croyez-moi, ça marche. Merci mille fois, Sabine, pour votre témoignage. Je rappelle, bien évidemment, à celles et ceux qui nous écoutent ce soir, que vous pouvez facilement trouver les narcotiques anonymes ou les alcooliques anonymes sur Internet. Il y a des réunions à Paris tous les jours. Dans les grandes villes, il y en a beaucoup aussi. Et puis, et ici et là, en France, naissent des antennes de ces fraternités qui... croyez-moi, peuvent vous sauver la vie parce que ça marche.
Mille absolument. Fois. Donc d'ailleurs, je vais vous donner le numéro de la helpline que vous pouvez appeler si besoin, si vous avez un problème de drogue ou des questions. Donc c'est 01 43 72 12 72, en sachant qu'il y a le site Narcotique Anonyme, www.narcotiquesanonymes.org. Et sinon, même NA France, en tapant NA France sur Google, on arrive sur notre site. Et je voudrais juste dire du coup un petit message aux gens qui consomment et qui nous écoutent. Moi, je sais que j'ai beaucoup consommé de la drogue par rébellion. Et justement, je vous entendais parler de partage. Et en fait, dans la société de consommation, finalement, les gens ne partagent pas beaucoup et sont assez malheureux. Et moi, j'ai pas mal consommé par révolte et finalement la plus grosse rébellion de ma vie, c'est dans la société où on vit, c'est d'avoir arrêté de consommer. C'est une grande fierté pour moi aujourd'hui et pour moi c'est une forme de révolution, même si elle est personnelle et intérieure. Je trouve ça très important. Voilà, donc je voulais vous dire merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Je vous en prie, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1 et puis bon vent dans cette nouvelle vie.
Merci.
Passez une belle nuit, Sabine, au revoir.
Merci, au revoir.